Bonsoir. Je vais donc aborder la deuxième séance que j'ai prévue à propos de la mémoire et que j'ai intitulée « La tradition entre mémoire et oubli ». Alors, la semaine dernière, mais je crois que les personnes qui sont là, la semaine dernière pratiquement, j'ai travaillé sur la réminiscence socratique, donc à partir de la lecture du texte du Ménon. J'ai tenté de faire une interprétation de la réminiscence socratique qui en fait m'a conduite vers l'idée de tradition. C'est-à-dire si apprendre c'est se souvenir, c'est qu'il s'agirait justement de ressaisir un savoir qui est en nous sans que nous le sachions. Et ce savoir justement ce serait un savoir immémorial. Bon, on avait commencé un petit peu à lancer des pistes. En direction, entre autres, du langage, pour comprendre comment justement ce savoir pouvait, comment on pouvait hériter de ce savoir, comment il pouvait nous être légué. Serait-il que j'avais annoncé donc que ça me conduirait cette semaine à évoquer, à travailler sur l'idée de tradition, avec ce paradoxe hein, qui pourrait expliquer le titre que j'ai donné, que la tradition. C'est en fait une mémoire qui est transmise, mais sous la forme de l'oubli. Hein, c'est-à-dire que dans la tradition, par définition, elle implique un oubli. Je vais essayer un petit peu de le montrer ça. Donc il y a transmission, il y a ce qui pourrait renvoyer, on pourra le voir éventuellement même dans la discussion, à une forme éventuellement de mémoire collective. Mais donc, ce qui se ferait à l'insu des individus, et de telle sorte qu'il y aurait donc une mémoire qui reposerait dans l'oubli. Une mémoire qui reposerait dans l'oubli en chacun de nous. Alors, pour travailler cette idée-là, je me suis dit que peut-être je pourrais revenir pour commencer à un concept de tradition traditionnelle. Essayer de comprendre un petit peu ce qu'on appelle couramment la tradition, en voyant aussi comment la tradition rationaliste, la tradition des Lumières, a voulu combattre la tradition au nom du savoir positif, au nom de la rationalité, pour éventuellement avoir l'opposition entre la connaissance historique et la tradition, etc. Dans un deuxième temps, j'aimerais bien montrer que il y a une force de la tradition. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est... Enfin, je voudrais en fait montrer qu'il y a une résistance de la tradition au savoir de l'historien, à la rationalité. Et cette force de la tradition, en fait, j'aimerais bien, pour développer, me tourner du côté du texte de Freud, Moïse et monothéisme, qui est en fait... ça fait de ça très très longtemps, quand j'ai lu ce texte de Freud, la manière dont Freud parlait de la tradition dans ce texte-là m'a beaucoup frappée. Je trouve que c'est très très fort, la manière dont il en parle, et m'a fait... Enfin, justement, m'a fait... concevoir la tradition, l'idée de tradition sous un angle assez nouveau et qui me semble très riche. Donc ça, je le développerai un petit peu. Et ça va me conduire finalement à l'idée que nous n'avons pas des traditions, mais nous sommes pris dans la tradition. Nous sommes dans la tradition. Et à partir de là, je vais élargir l'idée de tradition au sens d'héritage culturel. Et pour ça, je me tournerai assez rapidement, de toute façon, on verra que je fasse tout ça assez rapidement, vers Heidegger et la notion de tradition qu'il développe dans les traitants. Et qui, en fait, est travaillé chez lui comme... disons que le rapport de ce qui s'appelle le Dasein chez Heidegger, pour faire très vite, on va dire, la réalité humaine à la tradition, c'est il la pense comme un mode d'être existentiel, c'est-à-dire comme, disons, une manière même d'exister. Mais précisément, ça peut être vécu sur le mode de l'oubli, ou bien on peut tenter de la ressaisir. Alors, on peut tenter de la ressaisir en existant, dans l'existence, mais on peut aussi tenter de la ressaisir par un travail qui est un travail herméneutique, que Heidegger opère à l'encontre, enfin, sur, à propos de la tradition ontologique, de la tradition philosophique dans Être et Temps. Et ça va me conduire à un quatrième point que j'aimerais évoquer. Justement, si la tradition relève d'un savoir qui est oublié, d'un savoir qui est mystérieux, qui est secret, de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir appréhender ce savoir? Et justement, il me semble que ça ne peut se faire que sur le mode de l'herméneutique, c'est-à-dire en règle générale de l'interprétation, donc d'une certaine forme de questionnement. Et j'aimerais montrer justement là l'importance que peut avoir le langage et la réflexion sur le langage. Et ça, je le ferai par l'intermédiaire de Gadamer, qui est un philosophe allemand qui est mort il n'y a pas très longtemps, à 102 ans, avec toute sa pensée, et qui était qui s'inscrit dans les traces de Heidegger, et qui a développé toute une réflexion sur les sciences, ce qui s'appelle les sciences de l'esprit chez les Allemands, qui pourrait correspondre aux sciences humaines, mais bon, ça, c'est difficile de faire correspondre les termes, et qui justement a travaillé l'idée d'une herméneutique. Donc en fait, le mouvement que je vais faire, il va partir d'une conception négative de la tradition, en l'absence de réflexion, pour aboutir finalement à une revalorisation de la tradition, pour montrer finalement que la tradition, c'est peut-être ce qui précède toute réflexion, toute compréhension. Et donc il s'agirait de ressaisir justement cette force de la tradition, ce caractère positif de la tradition. En fait, ce mouvement de revalorisation, de réhabilitation, d'une certaine manière, de la tradition face aux Lumières, il s'est opéré essentiellement à partir des romantiques allemands. Et puisque chez eux, l'idée de tradition a pris une place très très forte. Et d'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point des gens comme Heidegger, mais aussi Freud, ne sont pas redevables aussi de cette tradition romantique. Gadamer, lui, il le dit explicitement, il se réfère explicitement au romantisme quand il le développe. Donc justement, cette idée qu'on est romantique, que la rationalité ne peut pas permettre d'épuiser le sujet humain qui doit être compris comme pris dans un tout, pris dans une totalité qui l'excède. Donc en fait, c'est vers ces idées-là que j'ai envie d'aller. Donc, de la tradition comme d'une mémoire qui repose dans l'oubli, mais qui en même temps, traverse les individus et les excède toujours. Mais comme quelque chose qui serait à la fois en retrait et toujours en excès. Alors, bah, je vais reprendre ce plan en travaillant un petit peu plus les idées au fur et à mesure. Donc, je voulais commencer par montrer où j'allais, puisque vous pourrez considérer que la manière dont j'appréhende le concept de tradition peut sembler inhabituelle, je ne sais pas, enfin, vous me direz après. Ça ne va pas sans difficulté de développer tout ça, surtout que je me retrouve au carrefour de traditions qui ne peuvent pas être assimilées pour moi simplement. C'est pas facile de tenir tout ça ensemble. C'est-à-dire que Travaillant sur l'idée de tradition, les deux réflexes, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est Moïse et le monothéisme de Freud, et puis Heidegger et la tradition herméneutique. Ça ne va pas de soi de les faire tenir ensemble, parce que pourrais le développer et éventuellement en discuter. Enfin, je vois si j'aborde en développement, bien si je le remets complètement pour la discussion après. Parce que chez Freud, il y a quand même des raisons très particulières qui font qu'il y a oubli. Alors que si on tourne du côté de Heidegger et de Gadamer, on se retrouve avec un sens finalement beaucoup plus large de la tradition comme héritage culturel qui est transmis à cet être historique que nous sommes par le langage. Ceci dit, cette tradition-là, elle a aussi influencé quelqu'un comme Lacan, qui a accordé une place très grande au langage. Il y a des ponts à établir. Moi, quand j'avais lu ces textes il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler à la fois, quand j'ai lu le Moïse, le Freud, quand j'ai travaillé à très temps de Heidegger, au début, je me disais, c'est surprenant pourquoi Heidegger, qui écrit dans les années 20-30, fait l'impasse totale sur l'idée d'inconscient freudien, alors qu'il y a tellement de choses qui pourraient se rapprocher, tellement de points de rencontre qui pourraient avoir lieu. Mais justement, leur problématique est tellement différente, leur démarche est tellement différente que ce n'était pas faisable, justement. Alors bon, je vais essayer de ne pas, disons que... pas faire d'amalgame, mais de réussir à faire une synthèse entre ces idées qui nous mènent quelque part. Alors si on prend le terme de tradition dans son sens courant, je leur remets au dictionnaire. Hein. Tradition, ça vient de tradere en latin, qui signifie remettre, transmettre. Par la tradition, quelque chose nous est remis. Quelque chose nous est transmis. Quelque chose nous est remis, on pourrait dire aussi quelque chose nous est confié. Alors au départ, c'est un terme, le premier sens que donne le Romer, c'est un terme de droit. C'est la remise matérielle d'une chose mobilière, une donation, un changement de propriétaire. Enfin. Et sinon, ensuite, le gros du sens, hein, c'est la transmission non matérielle. On nous parle d'abord des doctrines ou pratiques religieuses ou morales, transmises de siècle en siècle, on en donne comme synonyme la croyance. Ensuite, on a toute forme d'information relative au passé, enfin, l'information relative au passé plus ou moins légendaire, non consignée dans des documents originaux, et transmise oralement de génération en génération. Donc ça nous conduit vers le folklore, la légende, le mythe. Et puis dans le domaine des techniques, des arts, des mœurs, des savoir-faire, etc., c'est la manière ou l'ensemble de manières de penser, de faire ou d'agir qui est un héritage du passé. À ce moment-là, on nous donne comme synonyme coutume, habitude, d'une part, et puis mémoire. On donne des exemples, tradition familiale, tradition libérale, tradition jacobine, tradition des étudiants, etc. Donc c'est une culture qui est propre à un groupe et qui est transmise à l'intérieur de ce groupe. Alors, la transmission non matérielle des doctrines ou pratiques religieuses ou morales, il me semble que c'est un sens très grand qu'on a, puisqu'on a la tradition religieuse. Hein. Même chose pour folklore, légende ou mythe, c'est-à-dire la tradition orale, hein, donc un certain nombre de mythes, de légendes. Et puis, je me dis que le troisième sens, il doit être plus récent. Quand on parle justement d'une tradition familiale, d'une tradition politique, je me demande si c'est pas un sens avec la fête que je vérifie, qui daterait plutôt du 18e ou 19e siècle. Justement, on va penser la tradition au sein même de la modernité, comme s'exprimant pas forcément à travers des croyances religieuses ou des mythes, mais comme pouvant aussi se manifester à travers des comportements, des mœurs, des coutumes, etc. Je crois vraiment qu'au XVIIIe siècle, le sens, c'est vraiment celui des doctrines et croyances religieuses, et puis les mythes et légendes, etc. Donc, quelqu'un a une objection contre ça, enfin, là-dessus. Je lance des pistes éventuellement pour une discussion. Mais donc, au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, ou l'Aufklärung en Allemagne, justement, n'a eu de cesse de s'attaquer justement aux traditions, puisque les traditions justement étaient pensées comme des pratiques ou des croyances qui n'étaient pas fondées en raison, qui étaient donc l'expression d'une ignorance, d'un non-savoir, et qui obstruait, qui empêchait de penser, qui empêchait de réfléchir plus qu'autre chose. Donc la tradition, elle est du côté de l'obscurantisme. Et il s'agirait justement de lutter contre la tradition à l'aide de la raison. On pourrait d'ailleurs relever ici au passage que le terme de modernité, enfin l'idée de modernité, elle se construit contre la tradition. Être moderne, au sens propre du terme, c'est rompre avec la tradition. C'est faire du nouveau. Hein, c'est avoir une manière d'être qui est nouvelle. Donc la modernité, et d'ailleurs, on appelle à partir de la Renaissance la période qui s'ouvre à partir du XVIIe siècle, la période des temps modernes. Les temps modernes, ils sont justement en rupture avec la tradition religieuse, avec les croyances. Et avec donc la nécessité pour l'homme de faire usage de sa raison pour apprendre à penser par lui-même et le droit à l'examen de ton entendement, dit Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, dans un petit opuscule qui s'intitule Qu'est-ce que les Lumières ? C'est par paresse et par lâcheté que la plupart des hommes restent leur vie durant mineur et justement ne se prennent pas en charge pour penser par eux-mêmes et préfèrent s'en remettre à la tradition, à l'autorité, plutôt que de réfléchir par eux-mêmes. Alors d'ailleurs, ce sens ce sens très péjoratif de la tradition que la modernité va construire, on le trouve y compris dans un traitement de Heidegger. C'est un tout petit passage, c'est dans le paragraphe 6 de traitant, où il dit la tradition, en venant exercer sa domination, rend d'abord et le plus souvent ce qu'elle transmet si peu accessible qu'elle l'occulte bien plus tôt. Elle livre ce dont elle s'empare au cela va de soi et barre l'accès aux sources originales d'où les catégories et concepts traditionnels ont été tirés pour une part de manière légitime. La tradition va même jusqu'à faire entièrement perdre mémoire qu'ils ont eu une telle origine. Donc y a l'idée que la tradition barre l'accès à la compréhension de ce que nous sommes puisqu'elle nous livre au « cela va de soi » qu'au lieu de nous inviter à réfléchir sur nos catégories, sur ce que nous sommes, elle nous conduit à nous en remettre finalement à ce qui est donné, à ce qui est déjà là. Je vais ajouter quelque chose. Justement, je pensais à propos de l'oublier de l'origine, c'est-à-dire d'une idée à laquelle on croit, mais sans être capable de la fonder en raison, c'est-à-dire sans savoir pourquoi on y croit et d'où elle vient, cette idée. Ça me faisait penser un petit peu à la manière, justement, j'avais envie d'appliquer ça à ce qu'on appelle les traditions populaires, qui sont, y compris le carnaval, etc., les croyances qu'il peut y avoir dans différents villages, dans différentes régions, dans différents pays, etc. Et en fait, ces croyances, elles sont véhiculées, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Elles viennent d'un temps très très ancien, immémorial. C'est perdu complètement, tellement c'est loin. Et finalement, le type d'explication qu'on pourra trouver, ou que donneront éventuellement ceux qui sont dans la tradition, ça sera des explications de type mythique ou légendaire. On s'en remettra à d'anciennes légendes. On expliquera que si on a pris l'habitude de faire telle ou telle chose, justement un récit mythique, un récit imaginaire. De telle sorte que finalement la tradition, elle peut être pensée de ce point de vue-là comme un oubli de l'origine. Parce que quand je dis la tradition, elle transmet une mémoire sous la forme de l'oubli, on pourrait très bien me dire, oui, mais les traditions populaires, elles sont véhiculées par des gens qui sont conscients d'avoir ces traditions, qui les connaissent. Mais la question, c'est finalement, ces traditions, à quoi est-ce qu'elles renvoient? Pourquoi est-ce que les hommes ont telles mœurs, ont tel rituel, etc. Et bien, ça renvoie à une histoire qui se perd dans la nuit des temps, et de telle sorte que finalement, on a oublié à quoi ça renvoyait. Donc il y a fondamentalement un non-savoir et un oubli qui serait caractéristique de la tradition. Alors justement, le problème c'est, est-ce que la rationalité des Lumières peut venir à bout de cette ignorance, ou de ce qui s'appelle aussi des préjugés dans le vocabulaire cartésien, dans le vocabulaire des Lumières? D'une certaine façon, on pourrait penser que la naissance des sciences humaines au XIXe, elle s'inscrit un peu dans ce projet des Lumières, justement, d'aborder de manière positive l'homme, et d'expliquer au travers la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la psychologie, voire la psychanalyse, etc. Enfin bon, que je mets quand même de côté parce que c'est un peu particulier, mais que justement ces sciences humaines, elles s'inscriraient dans ce projet positif de connaître l'homme et d'analyser justement ce qui semblerait échapper à première vue à la raison, mais dont on devrait pouvoir rendre compte. Et toutes ces sciences, elles se font d'ailleurs, elles sont aussi pensées par rapport à un cadre qui est quand même celui de l'histoire. Il y a même l'idée qu'on trouve par exemple à un moment une remarque de Freud dans Moïse et le monothéisme, qui se demande pourquoi aujourd'hui il y a moins de légendes et d'épopées, et qui pense que c'est peut-être parce que justement le savoir historique est venu en prendre la place. C'est-à-dire que la vie des hommes ne serait plus vécue sur le mode de l'imaginaire, et qui produirait justement des légendes, mais serait ressaisi justement de manière réflexive et rationnelle par l'histoire, hein, et donc par la même, d'une certaine manière, la tradition serait amenée à... Enfin, l'histoire pourrait d'une certaine manière venir à bout des traditions, de la tradition. Alors, on pourrait très bien arriver à ce constat-là, hein, aujourd'hui, et dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les traditions régressent, pour toutes sortes de raisons. C'est pas seulement la faute aux sciences humaines. C'est aussi la mondialisation, le processus d'acculturation, qui est le résultat, qui est la conséquence de cette mondialisation, etc. Mais, on pourrait aussi rappeler que la religion, elle existe toujours. Et puis surtout, peut-être venir se poser la question de ce que nous continuons à véhiculer à notre insu, qui nous constitue comme sujet culturel, et qui résiste finalement à toute entreprise de savoir positif et de rationalisation, ce qui ne veut pas dire que ce savoir positif soit inutile ou que cette rationalisation soit inutile. Mais il y aurait peut-être justement une illusion qui consisterait à croire qu'on pourrait venir à bout justement ce que j'appelle ici la tradition, par le savoir positif, que j'aimerais justement questionner, que j'aimerais bien interroger. Donc il y aurait une résistance de quelque chose qui relève de la tradition, et que n'épuiserait pas la réflexion positive ou rationnelle. Alors là, j'arrive à un deuxième point que je vous avais annoncé. Puisque justement, si on veut parler de la force de la tradition, je pense que la référence à monothéisme pourrait justement permettre de montrer cette force. C'est Freud qui emploie le terme, la force de la tradition. C'est chez lui que je prends ce terme-là. Puisqu'en fait, lui, il parle justement d'un souvenir qui pourrait justement, sans passer par la tradition orale, être transmis de génération en génération, y compris sur des siècles, pour éventuellement pour ressurgir. Et il s'interroge justement sur la manière dont ça peut être transmis. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'intitule Points épineux, où justement il se pose toutes sortes de questions qu'il ne prétend pas régler. Il se pose même la question de savoir si ça peut être transmis par la phylogenèse, c'est-à-dire que finalement on aurait des choses qui nous seraient. Ça ferait partie de notre héritage en naissant. Moi, je n'irai pas tellement de ce côté-là, je pense que c'est plus du côté des comportements et du langage qu'il faudrait se tourner pour comprendre justement, enfin, pour voir ce qui peut être transmis sans être dit. Donc, quand je dis les comportements, on transmet des choses par les comportements sans que rien ne soit dit, mais dans le langage aussi, on transmet tout ce qu'on dit. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours du sens en débord qui fait que quand on parle, on dit beaucoup plus de choses que ce qu'on dit. Et que quand on apprend à parler, on accède à toute une histoire et à toute une culture, je dirais, implicite d'une certaine manière. Bon, mais là, j'y viendrai un petit peu après. En fait, dans Moïse et monothéisme, Freud s'interroge sur l'origine du monothéisme. Hein. Il reprend des thèses qui sont développées par des historiens de son époque. En l'occurrence, il s'agirait de penser que Moïse était égyptien et que le monothéisme aurait pour origine le premier monothéisme d'Akhenaton, ce pharaon égyptien qui justement avait balayé la religion polythéiste des Égyptiens pour vénérer un principe unique qui était le soleil, qui était un principe abstrait, un principe lunaire abstrait. Et bon, donc Akhenaton, lui, il a cherché à instaurer cette nouvelle religion, mais quand il est mort, les prêtres égyptiens balayer tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à ce monothéisme pour rétablir l'ancien culte. Alors là, l'hypothèse que développe Freud à partir d'analyses d'historiens qui d'ailleurs, je crois, continuent encore aujourd'hui sur ces questions-là, c'est qu'à ce moment-là, Moïse serait été quelqu'un qui était dans l'entourage d'Akhenaton et qui serait allé qui aurait proposé aux Hébreux de quitter l'Égypte, qui leur aurait donc proposé ce nouveau culte ou cette nouvelle religion, donc que Moïse arrivait comme une espèce de sauveur pour un peuple qui était dans l'esclavage en Égypte, donc qui leur promettait une terre, qui donc leur avait quitté l'Égypte, les emmenait sur la terre d'Israël. Mais à partir de là, il y a d'autres hypothèses qui viennent de lectures critiques de prophéties dans la Bible, enfin de certains prophètes dans la Bible, etc., qui diraient qu'en fait, ce peuple hébreu, il aurait tué Moïse. Moïse qui était très très sévère et très, qui leur imposait une religion très très sévère. Et dans la Bible, on a de nombreux récits où Moïse se fâche très très fort contre son peuple. Et qui serait arrivé finalement sur la terre d'Israël, et que là, ils auraient finalement adopté un culte qui était le culte de Yahvé, qui était le dieu des volcans, et en ayant rejeté finalement le monothéisme, enfin le culte, parce que Yahvé c'était aussi un dieu unique, enfin en ayant rejeté le culte que Moïse leur avait proposé. Et en fait, Freud montre que carrément dans les textes, on aurait cherché à cacher finalement ce meurtre, et ce meurtre de Moïse, mais que dans la tradition, le souvenir de cet événement traumatique aurait continué d'être transmis, et serait devenu finalement de plus en plus fort, créant un sentiment de culpabilité toujours plus grand. Et ça aurait conduit finalement à une synthèse entre Yahvé et le dieu de Moïse, qui aurait donné donc le dieu de la religion juive. Et donc il s'interroge sur la force de la tradition qui aurait fait que cet événement se serait transmis, mais il exclut la simple possibilité d'une tradition orale. On pense justement, alors il me semble qu'il y a même un moment où il demande est-ce qu'il faudrait parler de l'inconscient collectif, et il répond c'est pas la peine parce que de toute façon l'inconscient c'est collectif. C'est une idée qui pourrait être intéressante aussi avec ce qu'on travaillera par la suite. Voilà, après, Freud applique ça aussi à un test qu'il avait développé dans Totem et Tabou, avec le meurtre du père primitif, dont le meurtre de Moïse serait la répétition. Et donc, il serait déjà. Ça serait, à partir du moment où il y a répétition, il y a en fait une tradition justement qui ressurgit à l'insu des individus, qui répète un événement sans savoir finalement. Et donc il applique ça, il applique ça finalement à l'histoire de la religion, mais des religions. Tout en gardant en réserve l'idée que ce qui est étonnant dans l'exemple qu'il a pris, c'est à quel point, selon ses hypothèses, l'événement oublié aurait ressurgi de toutes pièces, sans quasiment avoir subi de déformation, comme peuvent le faire les légendes ou bien les épopées lorsque les légendes sont reprises par les poètes. Alors je dis, c'est pas forcément facile de tenir tout ça en même temps, mais bon, comme la semaine prochaine on parlera de psychanalyse, on aura certainement l'occasion de revenir sur tout ça. Mais moi, ce détour par Freud, j'avais très envie de le faire parce que c'est la lecture de Moïse et le monothéisme qui m'a éveillée à l'idée justement d'une tradition qui se transmettrait de manière totalement inconsciente, que la tradition c'est quelque chose qui se transmet de façon inconsciente et qui peut justement se transmettre à travers des générations, à travers des siècles et des siècles, à la suite des individus. Bon, ça peut aussi permettre de soulever d'autres questions, mais je vais pas le faire là parce que ça va mener trop loin, besoin dans la discussion, peut-être que je pourrais les aborder. Alors, on se retrouve donc avec l'idée que l'homme, c'est un être qui vit dans le temps, dans l'histoire, et qui, disons que, à travers cette histoire, il y a un héritage qui se transmet, et que chaque individu, chaque sujet se structure et se constitue comme sujet humain, dans la mesure justement où il hérite hein, de cette mémoire sans savoir. Alors cette idée-là, justement, elle est développée dans l'être et temps de Hegel. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était la deuxième référence qui me venait quand j'avais envie de travailler l'idée de transition, bien que Hegel finalement ne l'aborde pas beaucoup. Enfin, il y a deux textes dans lesquels il en parle, hein, et à chaque fois c'est quand il aborde la question de l'histoire. Donc c'est dans l'introduction d'être et temps, et puis c'est paragraphe 6, et puis paragraphe 74, c'est-à-dire tout à la fin, quand il aborde la question de l'histoire et de ce qu'il appelle l'historialité, c'est-à-dire le fait que l'homme, c'est un, je vais dire l'homme, hein, ça c'est rapide, on verra quel. Disons que quand il dit Dasein à Heidegger, c'est justement qu'il ne veut pas parler de l'homme comme subjectivité, comme cogito, comme sujet rationnel, qui se représenterait à lui-même comme sujet. Puisque justement, ce qu'il vient remettre en cause, c'est cette idée d'un sujet se maîtrisant lui-même, et étant sa propre origine, puisque justement, ce qui me constitue comme sujet, c'est quelque chose qui me précède et qui m'excède. Donc, c'est donc dans la réception justement de cet héritage qui est toujours déjà là, qui a toujours, c'est ce qu'il appelle l'être-été, hein, que je me constitue comme sujet. Donc ça suppose qu'il y a quelque chose qui excède totalement la subjectivité au sens moderne, justement, du sujet rationnel dont je parlais tout à l'heure avec les Lumières, du cogito cartésien. Et alors justement, ce qu'il montre, c'est que donc alors, il appelle le Dasein, puisque Dasein, ça veut dire être là en allemand, mais même en allemand, c'est quasiment intraduisible. Enfin, même en allemand, le sens de Dasein est très particulier chez Heidegger. Hein. Disons que Heidegger parfois dit que le Dasein, c'est celui qui est le là. Alors justement, je ne vais pas danser là-dedans, mais ce que je pourrais quand même signaler, c'est que justement, on a une conception du sujet, non pas comme substance, non pas comme un sujet au sens du cogito cartésien, mais tout son être consiste à exister. C'est-à-dire que ce sujet, c'est un être qui a à être ce qu'il est, et tout ce qu'il est dans son exister, dans son existence. Ce qui signifie pour Heidegger que justement le Dasein existe comme projet, puisqu'il est pour son être, question de son être en son être même. C'est-à-dire qu'il n'a pas un être bien à lui, mais son être pose question. Il se fait du souci pour son être, parce qu'il a à être ce qu'il est. Donc il est projet, il se projette vers l'avenir. Mais, donc ce qu'il est l'attend dans l'avenir. Mais en même temps, ce qu'il projette, c'est son être-été. Hein, donc, l'avenir est d'une certaine manière l'avenir de l'être-été. Hein, l'avenir de ce passé, mais justement qui n'est pas à penser comme un passé révolu, puisque il est. Il n'existe que dans son avenir, hein, c'est-à-dire dans ce mouvement, justement, par lequel le Dasein existe, hein, et donc se choisit. Enfin, bon, tout ça, c'est repris par Sartre, mais un petit peu appliqué, je trouve, par Sartre, par rapport à la finesse des analyses de Heidegger sur cette question. Donc, ce que dit Heidegger, c'est que dans la mesure où l'homme est un être historial, c'est-à-dire qui vit, enfin qui existe en se temporalisant, c'est-à-dire dans le temps, hein, et qu'il ne fait, il n'y a une histoire que précisément parce qu'il existe temporalement, cet être, hein, ce qu'il est, c'est son être-été, Mais cet être était, il doit l'être en existant. Alors il peut l'être sur mode de l'oubli, ce qu'il s'appelle aussi dévalement chez Heidegger, qu'il appelle dévalement dans la tradition, dans le paragraphe 6, qui consiste à se laisser aller finalement. Et puis il peut l'être aussi en ressaisissant cette tradition. À ce moment-là, il s'agit de ce qui s'appelle la répétition chez Heidegger, mais qui n'est pas simple reprise de ce qui a été, mais qui donne à chaque fois naissance à quelque chose de nouveau. On en avait un petit peu parlé de ça la semaine dernière. Et oui, j'ai lâché ma phrase, mais ça va revenir. Ce que nous dit Heidegger, c'est que justement, d'une certaine manière, le rapport à la tradition, il est dans la manière d'exister. Donc, je parlais du dévalement dans la tradition, ou bien ressaisissement de cette tradition. Et ce ressaisissement, il peut aussi passer par ce qui s'appelle chez Heidegger la destruction en allemand, c'est-à-dire ce qui a été traduit par déconstruction en français, qui consiste justement à interroger la tradition pour finalement ressaisir l'origine qui la fonde comme tradition et qui justement est oubliée. Donc il y a tout un travail qui est une herméneutique, le terme est employé par Heidegger, qui consiste justement à montrer que tous les comportements que nous avons et tous les mots que nous employons sont chargés de sens, sont chargés d'un sens dont nous héritons et que nous reproduisons. Ça peut être en choisissant, ça peut être sans choisir, ça peut être de manière irréfléchie, ça peut être de manière réfléchie, mais c'est toujours par rapport à cet être-été que nous définissons notre projet. Donc il y a là quelque chose qui relève de ce qu'il appelle la structure ontologique du Dasein, mais qui justement ne peut être mise à jour, ou révélée, ou dévoilée, puisqu'il y a un voile à soulever, puisqu'il y a là quelque chose qui est scellé dans un retrait ou dans un écrit. Et j'ai oublié de finir ma phrase une fois plus. Je vais le reprendre autrement, mais oui, que justement ressaisir cette tradition, ça passe pas par l'analyse critique, par l'analyse rationnelle, mais ça passe par quelque chose qui serait de l'ordre de la description de ce qu'il appelle le Dasein et de sa manière d'être. Et excusez-moi, c'est des idées que j'ai du mal à formuler et ça me fait des blancs. Mais oui, et donc on n'est pas dans le cadre de la description rationnelle, mais on serait davantage dans le cadre de justement ce que j'ai présenté comme herméneutique. Alors, pour le terme d'herméneutique, je pense que on peut être peut-être déjà connu, déjà entendu. Je précise quand même qu'herméneutique, ça vient de herméneia en grec, et qu'il s'agit d'un sens caché ou secret. Donc, l'herméneutique suppose un travail de déchiffrage, d'interprétation, d'un message qui est là, mais qui est mystérieux et qui demande à être traduit, interprété, décodé, etc. Donc l'herméneutique au départ, elle se fait, c'est un travail de lecture des textes sacrés. Donc on retrouve ici dans le sens de la tradition de départ, avec les doctrines, les croyances religieuses, etc. Et donc toute la tradition herméneutique, elle s'est développée d'abord en tant qu'exégèse des textes sacrés. Et le premier qui va vouloir appliquer les méthodes de l'herméneutique qui sont donc des méthodes à la fois historiques et philologiques. Autre chose qu'au texte sacré, c'est Schleiermacher, qui est un romantique. Ça s'écrit comme ça, se prononce. Je ne sais pas, j'ai pas pris de faute, hein, donc je ne peux pas. S-C-H-E-I, Schleiermacher, M-A-C-H-E-R. Je pourrais besoin de donner l'orthographe après. Et justement, il va y avoir justement le projet d'appliquer cette méthode d'interprétation des textes à l'histoire humaine et aux traditions des hommes, y compris justement les légendes, les rites, etc., les rituels, etc. Et Schleiermacher, lui, fait partie des fondateurs du romantisme, du premier cercle romantique allemand à la fin du XVIIIe siècle. Et les romantiques allemands qui, eux, justement, ont complètement réhabilité l'idée de tradition, hein, qui se sont tournés justement vers les traditions et qui les ont exploitées amplement dans leur littérature, dans la littérature. Mais parce que justement la tradition, elle renverrait peut-être à quelque chose qui serait de l'ordre d'une vérité, d'un savoir. Cette idée d'ailleurs de vérité, on la trouve aussi chez Freud dans Poésie et le monothéisme, avec la vérité de la religion. Et on la trouve chez Gadamer, qui justement s'interroge sur une forme de vérité ou de savoir qui justement ne serait pas réductible au savoir positif des sciences objectives de la nature. Donc Gadamer, et j'en arrive donc au dernier point que je voulais aborder, Gadamer, lui, il va justement se servir de cette tradition herméneutique. Il est passé par les textes et l'enseignement de Heidegger, au passage, hein. Il en souligne l'importance. Mais Gadamer, il va donc reprendre cette tradition herméneutique pour s'interroger sur le statut des sciences de l'esprit. Et en se demandant finalement, quand on cherche à comprendre l'homme, à travers l'histoire, la critique littéraire, il parlait essentiellement de l'art, de l'histoire, et la critique littéraire, dans son... quand on cherche à comprendre l'homme, justement, il y a là quelque chose, enfin, plutôt, l'idée de compréhension doit être distinguée de celle d'explication. Et ça, c'est d'ailleurs l'héritage de Dichte, qui lui-même est un héritier de Schleiermacher. Dittel, lui, il a fait la distinction entre expliquer et comprendre. Les sciences de la nature expliquent. Elles expliquent la nature par des rapports de causalité. Et les sciences de l'esprit, c'est comme ça qu'ils les appellent, cherchent à comprendre. Et comprendre, c'est resituer dans une totalité. Hein, et ça suppose à ce moment-là, comprendre, alors l'expression que je prends là, elle est de Wittgenstein, elle n'est pas de Dittel. D'ailleurs, les textes de Dichter, je n'arrive pas à les trouver, ils ne sont pas traduits, ou ils sont épuisés. Je cherche, mais je ne trouve pas. Mais chez Wittgenstein, lui, quand il pose la question « qu'est-ce que comprendre ?», il dit « comprendre, c'est saisir toute une forme de vie ». C'est dans ce sens-là que va l'idée de la compréhension chez Dichter, et qu'elle est reprise aussi chez Gadamer. Finalement, quand on cherche à comprendre l'homme, il y a quelque chose, hein, finalement, il s'agirait de ressaisir justement quelque chose qui s'adresse à nous, qui nous adresse la parole, à partir de l'histoire, à partir des textes, à partir de l'histoire des hommes et à partir des textes, qui ne peut pas être purement et simplement reconstitué dans un savoir positif. Donc son texte intitule « Vérité et méthode » parce que justement il ne s'agit pas de se donner une méthode pour comprendre l'homme, et il s'agit de se demander justement de quelle façon est-ce qu'on peut avoir accès à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, et qui en fait, justement, ne peut être ressaisi que par le biais d'une herméneutique. Alors, l'herméneutique, justement, elle suppose un travail sur le langage, hein, puisque Gadamer, lui, va vraiment travailler cet aspect-là et cette idée que quand on. Finalement, ce dont on hérite, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, est déposé dans le langage. Et que si finalement, par l'analyse du langage, qu'il s'agirait justement de ressaisir un sens qui excède les sujets parlants et que pourtant ils véhiculent. Alors, il se réfère aussi d'ailleurs à un autre auteur auquel se réfère aussi Heidegger. Gadamer dit la tradition est parole, ou il dit aussi la tradition est langage. Et il se réfère à un autre auteur auquel donc Heidegger se réfère aussi, qui s'appelle Humboldt, qui est considéré comme l'ancêtre de la linguistique, enfin, en tout cas, disons, de la philologie. Au XIXe siècle. Et justement, chez Humboldt, il y a cette idée que finalement, l'identité d'un peuple se reflète justement dans son langage, ou est véhiculée par son langage. Et donc, parler une langue, ça n'est pas seulement apprendre à se servir des mots pour les mettre comme des étiquettes sur les choses. Mais parler une langue, ça serait justement mettre en œuvre toute une représentation du monde, et ça serait justement hériter de tout un ensemble de représentations et les véhiculer. Il parle du génie de la langue. D'ailleurs, à cette époque-là aussi, on a chez Hegel, au tout début du 19e, un intérêt pour ce qu'il a appelé l'esprit du peuple, l'esprit d'un peuple. Parce qu'en fait, ce qui s'appelle l'esprit chez Hegel, au départ, ça vient justement de recherches, d'une question qui se pose sur ce que c'est que l'esprit d'un peuple. Et justement, enfin, j'en parlais un petit peu de Hegel la semaine dernière, mais justement, l'esprit d'un peuple, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tradition, ou de ce qui pourrait aussi s'appeler, si je me réfère à un travail qu'on a fait la semaine dernière, ce qui pourrait être de l'ordre de la réminiscence. C'est-à-dire finalement d'une mémoire déposée dans l'oubli, qui se transmet de génération en génération, et qui fait que justement une identité culturelle finalement se transmet. De génération en génération, et que les individus se structurent dans cette transmission. Je crois que j'ai réussi à dire à peu près ce que je voulais dire en essayant de le simplifier, d'aller au plus. À te le dire en une heure, quoi, voilà. Sachant que c'était une question sur laquelle des idées que je n'ai jamais travaillées systématiquement, mais qui m'ont toujours travaillé justement, de la même façon qu'on ne parle pas. On ne parle pas la langue, mais elle parle en nous. Il y a aussi des idées qu'on ne travaille pas, mais qui nous travaillent. Résultat, voilà, quand je me suis lancée là-dedans, je me suis mise à soulever des montagnes parce que, en fait, c'est pratiquement une recherche que j'aimerais continuer à faire. Mais bon, je n'ai jamais le temps parce qu'il y a toujours des tas de cours à préparer dans tous les coins. Bon, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne la parole parce que bon, il y a vraiment, peut-être des pistes qui m'ont être.
Ça donne bien. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'était tout à fait évocateur sur bien des points. Alors, je ne peux pas essayer de revenir sur beaucoup de points, mais au moins un qui me paraissait important du milieu de votre exposé, concernant le statut de la tradition, avec un grand T, si j'ose dire. Parce qu'effectivement, il y a quand même un écart sensible dans la manière dont au XIXe siècle on dit la tradition et dont on vous en avez parlé aujourd'hui. Dans la mesure où, jusque, et on le voit dans l'année par exemple, les grands auteurs de la réaction, si j'ose dire, sous la restauration des libéraux, ont par rapport à la tradition la conception d'une tradition avec un grand T, c'est-à-dire qui est totalement intégrative. On ne pense tradition que parce qu'elle est intégrative. Il n'y a pas la tradition de ceci ou la tradition de cela. Elle n'est pas seulement religieuse. Quand par exemple on voit le statut du père, la discussion de la capacité ou du droit de mort du père sur ses enfants en 1830-1835, on se rend compte que c'est la référence réelle, elle n'est évidemment pas à la tradition du droit du père, elle est dans l'intégration globale de cette affaire de la paternité, du patrimoine, de la transmission, dans la tradition prise comme une entité. C'est une entité globale. Et effectivement, là où vous avez raison, il me semble-t-il, c'est qu'à partir du moment où, au fil du siècle, et puis de nos jours, on va dire que ça c'est traditionnel, mais en désignant des choses dites traditionnelles, et plus la tradition, ça c'est traditionnel, et bien effectivement, on décompose très largement cette conception, j'allais dire presque civilisationnelle, d'une entité générale, au profit d'un rapport individuel ou d'une petite communauté. Là, il y a la petite communauté de ceux qui ont la tradition de faire ça plutôt qu'autrement. Ce qui est quand même très 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 différent de l'ensemble qui est à la fois religieux bien sûr, mais aussi politique, social, ses relations de parenté, c'est une anthropologie générale, si j'ose dire, qui fait dire la tradition est inventée contre laquelle effectivement les révolutionnaires se sont dressés, contre laquelle la Aufklärung s'est construite. C'est construite contre l'entité générale, pas contre des traditions. C'est construite contre la tradition et pas seulement religieuse, me semble-t-il. Ça, c'était tout à fait un point fort, parce qu'en fait, je trouve ça tout à fait intéressant la manière dont vous avez ensuite développé notamment les positions freudiennes et d'ailleurs. Mais je crois que d'un point de vue purement historique, il y a encore aujourd'hui, c'est vrai, quelque chose qui renvoie à des conceptions de tradition comme entité globale, dans certains cas, peu nombreux aujourd'hui. Il y a encore un certain nombre de gens qui le font et qui le disent à leur manière.
Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a à la fois une tendance à vouloir retrouver la tradition avec un grand T comme une espèce de. Disons de. Parce que c'est rassurant aussi, et puis ça permet effectivement à la fois. Moi je l'entends un petit peu ici au sens de retour vers le passé, de nostalgie de tradition, d'une tradition au sens large du terme, enfin au sens fort du terme. Qu'on chercherait à retrouver une entamée. Et je me demande justement si aujourd'hui, avec justement tout le travail critique qui a été fait, hein, c'est les romantiques qui disent on est entré dans l'âge de la critique, mais tout le travail critique justement qui a été fait, justement la tradition, c'est ce que vous disiez aussi, elle s'est morcelée et elle n'arrive plus directement comme elle a. Elle pouvait arriver avant. Et donc, alors peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose de ce point de vue-là, comme une espèce de crise de la tradition, de morcellement. Et finalement, chacun, justement, se choisit ses propres héros, comme le dit Heidegger. Choisit son passé, comme le dit aussi Sartre. Hein. Et en fait, il y aurait peut-être justement à la fin du XXe siècle une espèce d'opposition entre le retour à la tradition et l'inventé, comme vous le dites, et puis une multiplicité d'attitudes qui toutes renvoient à une certaine forme d'héritage, mais que chacun se choisit finalement. Et il y aurait à ce moment-là une espèce de crise dans la transmission, qu'on appelle aussi peut-être aujourd'hui crise des repères, crise des valeurs, etc. Enfin, je sais pas, ça pourrait être.
Parce que en fait, les sociologues parlent là de regroupement affinitaire. Effectivement, dans la situation où il n'y a plus la tradition inventée,
mais les sociologues ont tendance à parler de regroupement affinitaire, c'est-à-dire que là, la grande tradition ne peut plus être englobante, et où on retrouve en revanche, chez ceux qui ont considéré comme étant ses pairs ou ses semblables, de quoi retenir des souvenirs et essayer de les fonder comme des rites à l'intérieur d'un groupe, on peut faire des rassemblements affinitaires, et souvent on peut avoir une infinité ou une myriade de rassemblements affinitaires où chaque fois on a le sentiment que l'on se retrouve avec son semblable, et où tout se passe comme si, tout en étant avec son semblable, on était héritier, alors qu'en réalité on n'hérite pas grand-chose, et qu'en fait on est en train de construire dans le petit groupe de quoi faire avancer les idées communes au groupe. Donc là, c'est ce qui fait que la tradition est peut-être un peu, de ce point de vue, largement laissée de côté, et que le réel de la relation, de l'interaction entre les individus, l'emporter aujourd'hui. Ça ne me paraît pas être du tout de l'individualisme, au sens où on le dénonce quand on parle de perte de repères. Ils perdent de repères parce qu'ils sont devenus individualistes. Alors, c'est pareil. Personne n'est totalement individualiste dans cette affaire. On joue l'interaction, on joue donc les regroupements avec son semblable. Et là, il y a peut-être constitution de quelque chose qui sera transmissible, qui peut être l'espoir. L'espoir de transmettre quelque chose.
En fait, sur l'individualisme, justement, on touche peut-être là à quelque chose qui est peut-être proprement illusoire dans l'idée même d'individualisme. Parce que, de toute façon, nous sommes des sujets historiques et culturels et. Donc c'est aussi un petit peu de ça que j'ai voulu parler aujourd'hui. C'est-à-dire que je choisisse de ressaisir ce qui m'est légué, ou plutôt que je le ressaisisse d'une manière ou d'une autre, de toute façon, je ne puis faire du moi que sur la base de, justement, ce qui m'est légué. Et c'est aussi ça que dit Heidegger quand il dit le Dasein est son être été, et c'est-à-dire ce qu'il a toujours déjà été, et qui renvoie justement à quelque chose de qui est de l'ordre justement de la tradition. Mais alors c'est pour ça que j'ai pris un petit peu des précautions au début en disant que j'allais être conduite vers une idée de tradition qui n'est peut-être pas le sens qu'on lui prêterait immédiatement de la tradition avec un grand T, justement. Et qui n'est peut-être pas non plus dans cette multiplication. Parce que l'idée, c'est quand même que fondamentalement, si la tradition, c'est une mémoire qui nous est transmise mais qui sur le mode de l'oubli, qui repose dans l'oubli. Ça, c'est aussi une chose qu'on trouve chez Heidegger, chez Gadamer, et puis aussi d'une certaine façon chez Husserl. Elle est préalable à toute représentation, à toute réflexion, à toute construction de soi. C'est-à-dire que, justement, l'illusion qui irait dans l'individualisme, c'est celle selon laquelle. C'est celle du cogito, finalement, selon laquelle chaque sujet se fait à partir de rien, alors qu'on est toujours, en situation. Le terme de situation, par exemple, Gadamer le reprend aussi, là, chez Sartre, Gadamer le reprend. On est toujours en situation, et la façon dont on se détermine par rapport à cette situation donnée est singulière. Mais au départ, on ne s'invente pas. C'est un petit peu ces questions-là qu'on m'intéressait d'aller. Donc, madame, c'est pas justement un individualisme contre communautarisme, parce que de toute façon, nous sommes des sujets culturels, de toute façon pris. On s'intègre de toute façon dans une communauté au sein de laquelle on se constitue comme sujet du groupe, en adhérant à un héritage, à des traditions, etc. Donc, de toute façon, on est toujours pris dans une communauté. Alors après, il peut y avoir éclatement de la grande communauté, mais ça, c'est... effectivement, je ne sais pas comment le dire, mais disons que l'idée ici, c'est qu'on n'est pas dans... Soit c'est l'individualisme, soit c'est le communautarisme. Justement, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que l'individu, il est de toute façon pris dans un tout qui l'excède et qui le détermine en même temps. Ce qui n'empêche pas d'avoir une singularité, puisque ce qui compte, c'est la façon dont il ressaisit justement ce quelque chose qui lui est légué et qui est déterminé.
Juste un problème de langage, justement.
Merci. Je suis profondément d'accord avec ce que vous avez dit en ce qui concerne le langage. C'est une clarté absolue. Et je pense que ce n'est pas seulement une affaire de philologie, c'est une affaire effectivement de présentification quotidienne. Donc là, je crois qu'on est entièrement d'accord. J'ajouterais que le problème de langue de vocabulaire tel que nous l'employons, par exemple, quand on dit que cette tradition qui est effectivement préalable, d'une certaine manière, ne l'est vraiment que si on entend qu'elle est en permanence présentifiée, c'est-à-dire que ce préalable n'est pas une antériorité historique qui laisserait la place au présent, c'est que ce préalable, c'est déjà là, au sens où il est là, et il est là vraiment, c'est-à-dire qu'il est saisissable par le projet, par le futur, par l'avenir, mais il est saisissable que parce qu'il est totalement là, et c'est ce qu'on nous demande à la notion de situation, c'est dans la situation du maintenant qu'il est là. Et ça, c'est plus important encore que de l'imaginer comme venant du passé. Il est bien plus important de le considérer comme un extraordinaire acquis échangeable. Et le fait qu'il est là fait qu'il est échangeable. Et je crois que c'est peut-être un point supplémentaire qu'on pourrait avoir par rapport à la réflexion qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'un sujet de cogito, c'est qu'on est dans l'échange. Et je crois que la notion même d'échange ou d'interaction est très importante pour bien comprendre que le préalable, c'est pas du passé qu'on se contente de rappeler une élastique, quoi, c'est, si j'ose dire.
Ça, d'ailleurs, ça pourrait renvoyer à la notion d'intersubjectivité telle que l'a développée Husserl à la fin de sa vie, et avec le monde de la vie, justement, qui fait que si on se comprend, c'est parce qu'on est, c'est parce que de manière primordiale, on appartient au monde de la vie, que nous partageons tous et qui nous est commun, et qui est antérieur justement à toute réflexion, à toute représentation, à toute conceptualisation, etc. C'est pour ça d'ailleurs que Gadamer pose la question de la compréhension. Qu'est-ce qui fait qu'on se comprend? Justement, si on pense qu'on est des sujets séparés sur le cogito, eh ben, il y a peu de chances pour que... Enfin, on peut demander en effet comment est-ce qu'on peut se comprendre les uns les autres si on est chacun une entité qui ne renvoie qu'à elle-même. Enfin, je veux dire, c'est toute la question de ce qui s'appelle le solipsisme. Et alors que la question là, elle consiste justement à dire que notre être, c'est un être au monde, et que si on se comprend, c'est précisément parce que on partage le monde et qu'on se construit justement dans la relation au monde et à l'autre.
Je crois qu'un des avantages du détour que vous faites pour éviter la tradition avec un grand T, c'est une façon de mettre de côté et donc d'être un peu plus à l'aise avec la question des origines. Il semblerait, pas seulement en ce qui concerne l'origine de la langue et l'origine du cours, que les seules réponses qui aient jamais pu être apportées soient de l'ordre, disons, du mythe. Et que donc, elle laisse toujours à désirer, et elle laisse toujours ouvert, ça c'est pour rebondir sur ce que vous venez juste de dire, elle laisse toujours le malentendu. Et il y a de fortes chances que ce soit plus le malentendu qui nous lie que la compréhension.
N'empêche qu'on se comprend quand même aussi. Je suis absolument d'accord sur le malentendu.
On partage suffisamment d'illusions pour pouvoir se comprendre. Oui. Et juste un petit détail à propos de...
Un tout petit point d'histoire à propos de, des révolutionnaires de 1789 et après. Il y a eu l'encyclopédie de Diderot, qui est un recueil extraordinaire de ce que la tradition, alors pas avec un grand T, offrait. On peut pas dire qu'ils l'ont jeté à la poubelle de ça. Ils l'ont fait leur de belle manière, hein, puisqu'on peut encore en bénéficier. Vraiment sur le versant le plus trivial et le plus proche de, enfin, voilà, de ce que nous pouvons être, des outils, des pratiques, des termes.
Oui, alors moi justement, c'est pour ça que quand j'ai lu le dictionnaire, j'ai fait la distinction entre les deux premiers sens et le troisième. Et le troisième, il me semble qu'il émerge justement, ce que je disais tout à l'heure, au 18e et 19e siècle. Et effectivement, des gens comme Diderot ne sont pas du tout étrangers à cette émergence. Mais.
C'est précieux.
Voilà, donc la tradition qu'ils combattent, c'est les religions, c'est les mythes. Et puis c'est tout ce qui serait de l'ordre des préjugés, du non-pensée. Mais effectivement, avec l'encyclopédie, oui, c'est... Bon, d'ailleurs, il s'agit justement, à partir de là aussi, justement, de recueillir cette tradition et de la préserver, de la conserver. Et ça, on trouve aussi chez Normandie, par exemple, avec les frères Grimm, qui ont recueilli les contes populaires. Mais parce qu'ils pensaient, c'est en tant que philologue qu'ils l'enseignent, ils pensaient justement qu'il y avait là quelque chose de la culture populaire, un génie de la langue qui s'exprimait là, dans les contes. C'est pour ça qu'on a les contes de Grimm aujourd'hui.
Un autre point, vous évoquiez le l'idée de Freud comme quoi c'est l'histoire qui aurait remplacé ce qui se transmet comme ça. Je crois qu'il oublie une chose, pour le coup, c'est le roman.
Non,
il parle
pas du roman.
Non. Des poètes. Oui, il parle des poètes, mais pas du roman. Alors je crois que le roman, avec sa naissance, l'extension qu'il a pris à partir de la fin du 18e, c'est quelque chose qui a pris vraiment une place énorme dans la transmission, on va dire, et c'est pas fini.
D'ailleurs, le roman, il est fondamentalement un roman d'initiation et de formation d'un sujet qui raconte son histoire.
C'est pas une certaine ambiguïté dans les traditions, parce que pour revenir à l'exemple de l'encyclopédie tout à l'heure, Diderot de Rambert et l'encyclopédiste, transmettre, enfin, ils emploient, c'est la transmission au sens étymologique du terme, mais transmettre, l'utilisation du marteau, dans le plume, je ne sais pas trop quoi, des outils, des machines, des machines d'ailleurs, parce que c'est le moment où il y a beaucoup de machinisation. Et alors, justement, là, il y a les Lumières combattent en fait les traditions, ce qu'ils appellent la tradition, c'est finalement les traditions chrétiennes, je ne sais pas, l'hostie, la vérité, de la vie, etc. Donc on voit très bien aussi comme politique par le système du renvoi, qui le renvoie justement à ces traditions que l'on voit, que l'on appelle après la tradition, mais qui en fait sont des traditions qui sont secondaires finalement.
Juste avant que le marteau ne s'abatte sur l'enclume, vous avez évoqué à propos du deuxième le deuxième chapitre de votre, enfin chapitre, je ne sais pas si on peut dire chapitre, à propos de Moïse, vous avez évoqué la résistance de la tradition. Et je, comme ça, elle m'est venue spontanément, mais elle résiste à quoi ?
Ça donne à réfléchir, mais je pense que c'est qu'une institution.
La famille, on est déjà, ce sont des institutions.
Alors, oui, oui, mais enfin bon, il y a. Parce qu'il y a
les élites, c'est une institution. Mmh. Mmh.
Enfin, ce cas, c'est que dans les institutions, il y a les institutions qui sont établies positivement, et puis il y a celles qui existent de fait, et à ce moment-là, ça renvoie à.
C'est bien ça.
Et donc, ça change tout.
Oui, mais monter, c'est le cerveau et le bouclier. Enfin,
c'est beaucoup plus que ça.
Disons que moi, j'aurais pas envie de ranger l'État dans les traditions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans la vie.
J'ai dit l'État monarchique.
Oui, l'État monarchique. C'est-à-dire le droit divin, c'est-à-dire. Qui d'ailleurs, enfin, bon, c'est vrai qu'à l'époque, le droit, c'était un droit coutumier. Ce n'était pas un droit écrit, explicite.
Sur la question du droit, effectivement, il existe d'ailleurs en Grande-Bretagne toujours un droit naturel extrêmement, extrêmement présent, à côté d'un droit écrit qui est lui largement postérieur. Le droit dont on a hérité avec le code Napoléon, c'est une réflexion qui date, vous citez les Cardinals et rien d'autre, qui date du 18e, on n'a effectivement pas de droit qui vaudrait partout, sur l'ensemble du territoire, par exemple. C'est dans le cadre des institutions, à temps qu'on est à la Révolution française. Il y a des droits, suivant les régions, suivant. Il y a un peu la tête du client, il y a, enfin, il y a un peu tout ça. Quoi, hein. Alors, ce qui est censé avoir disparu.
Sans
alors, je ne parlais pas de players. Bon, ce que vous avez appelé l'être été déjà là. Il y a une phrase chez Freud, alors je ne sais pas si elle est de lui ou si elle l'emprunte, et peut-être si l'emprunte, ça sera un choc de remarque parce qu'il aimait bien de le citer à l'occasion. C'était ce que tu as hérité de tes pères à Kierkegaard. Et il m'a semblé que ça disait ce dont il parlait là, beaucoup d'Heidegger. C'était quelque chose de cet ordre-là. Partant, je me suis demandé pourquoi vous écartiez aussi rapidement la phylogénèse, à laquelle tenait fortement Freud. Il fait référence
à tout le monde. Si vous avez des choses à me dire, ça me ferait plaisir, parce que moi, je ne me sens pas capable de comparer. C'est pour moi un énorme point d'interrogation.
Oui, je pense que nous sommes dans une période où cette question peut être reprise de façon un peu biaisée, mais de façon extrêmement intéressante. Il ne faut pas oublier quand même que l'époque de Freud, c'est aussi Darwin. Et que même si on pensait pour Lamarck, Darwin est présent dans son travail. Je parle de l'époque actuelle parce qu'il y a et on a la chance que ce soit en français, donc on peut y avoir accès assez facilement. On a doublement la chance qu'il est passé à Nîmes l'année dernière, qu'on a eu l'occasion d'aller écouter à la chapelle des Jésuites. Il s'agit de Patrick Thorpe, qui est un fondateur du Centre d'études darwiniennes en France. Il a édité l'étampement d'édition de l'œuvre complète traduite enfin de Darwin, et qui a des idées extrêmement intéressantes à partir des. Dans Darwin, à partir desquels on peut reprendre cette question de la phylogénèse, alors non pas avec l'imagerie aussi, aussi plaisante soit-elle d'ailleurs que Freud utilise, du style chaque pathologie correspondrait à l'ère glaciaire, je ne sais quoi, enfin, donc, ça fait partie de ces mythes comme ça, pour quelqu'un qui avait un projet scientifique au départ, il s'est embarrassé de tout un tas. Alors, Moïse, Totalitabou, enfin bon, il n'a pas arrêté de fabriquer je ne sais pas si ce sont des mythes, mais enfin pour lui, il les faisait fonctionner comme tel. Donc voilà, il y a ça. Et il y a un deuxième point concernant cette histoire de phylogénèse, c'est ce qui est en train de se développer, ça vient en France depuis une dizaine d'années, ce sont tous les travaux, à partir des travaux d'éthologie, concernant le rapport à l'animal. Quelque chose est en train de changer, alors qu'il nous sort un peu du végétarien, pas végétarien, où les pauvres ils souffrent quand on fait du foie gras, mais quand même c'est bon, enfin voilà. Ça va quand même un peu au-delà de ça, et je pense que ça peut permettre de repenser, ou d'essayer d'attraper cette histoire de phylogénèse dans le rapport à l'animal, très très différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent. Un personnage qui a écrit un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Par-delà nature et culture. Et il s'agit de Philippe Despola, qui est un anthropologue, pose très justement cette question en sortant du dualisme nature-culture, de cette espèce de guerre qui est un des grands dadas des romantiques, et en ce sens, au-delà du romantisme, quand même. En montrant que la question n'est plus dans le ou nature ou culture, et que ça peut permettre de reprendre aussi l'histoire du rapport à l'animal de façon très différente. Après tout, il y a des gens qui se prennent pour un animal. Et c'est pas en les traitant de fou qu'on évacue la question.
Mais en fait, c'est exactement dans tout ça que je ne voulais pas me lancer aujourd'hui, parce que je trouvais que j'avais déjà trop de choses, j'avais voulu parler de trop de choses, je voulais simplifier, mais effectivement, enfin, j'avais peur de me lancer là-dedans. Mais c'est des choses que j'ai travaillées cette année, puisque j'ai travaillé sur la vie pendant toute l'année avec une classe de prépa qui a mis ça au programme. Donc effectivement, j'ai lu Patrick Thorpe qui. C'est que je suis tellement la tête dans ce que j'ai lu là, depuis 2-3 jours pour ce soir, que j'ai du mal à faire le lien. Il y a aussi un autre auteur qui a écrit des choses magnifiques là-dessus, c'est Alain Prochance, je ne sais pas si vous connaissez. Et je pense particulièrement à quelqu'un qui s'appelle Machine-Esprit. Et il parle justement de. Est-ce que je vais me souvenir? Parce que je ne suis pas du tout, je n'ai pas la tête là-dedans. Mais bon, on peut y revenir la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est avec Jean-Paul Launay que je discuterai, qu'on dialoguera hein, sur la question de la mémoire. Donc on a déjà entamé un petit peu. Mais justement, Prochian se parle de ce qu'il appelle l'individuation. Et justement, du fait que chez les grands vertébrés, et c'est chez l'homme que c'est plus développé, mais c'est également chez les autres, chez les grands vertébrés, il y a justement un développement qui est son histoire, justement. Il dit qu'à partir de là, il place la biologie à la limite entre la physique et l'histoire, les sciences de la nature et l'histoire, parce qu'il y aurait justement cette dimension de l'histoire qui apparaîtrait chez les grands vertébrés, qui serait essentielle justement pour comprendre leur développement et le fait que chez eux, le phénotype s'écarte toujours davantage du génotype. Hein. Et mais alors justement avec aussi l'idée d'une transmission, c'est-à-dire finalement d'une évolution culturelle, d'une histoire culturelle. Mais ça pose, voilà, moi là-dessus je marche sur des œufs parce que j'y connais pas grand-chose, quoi. Hein. Freud s'intéressait énormément aux recherches en biologie à son époque et à ce qu'il pouvait, en neurologie, etc. Mais dans Moïse c'est le monothéisme, bon, quand il parle justement de phylogénèse, je me dis là, je pars sur un terrain glissant, j'y vais pas, et puis là, on y est. Mais c'est très bien.
Ce terrain-là est partout dans Freud. La phylogénèse, partout. Ah bon, parce que ça lui sert. Hein. Si ça ne lui sert pas, il me laisse de côté. Il ne parle pas forcément des grands singes. Mais il part du présupposé que l'ontogénèse reproduit la phylogénèse. Il n'est pas obligé de croire.
Et d'ailleurs, lui-même le pose toujours comme une question. Moi, je trouve qu'il avance de manière très prudente à chaque fois qu'il parle de ces choses-là. Enfin, je sais pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a. Les choses se compliquent quand nous apercevons que dans la vie psychique de l'individu, ce ne sont pas seulement les éléments vécus, mais aussi ce qu'il apporte en naissant, qui agissent, certains éléments de provenance phylogénétique, un héritage archaïque. De quoi donc est alors face au dernier? Que contient-il? Quelles sont les preuves de son existence?
Donc pour lui, il n'y a pas de doute.
Et il y a d'autres passages comme ça que j'avais relevés, mais bon, j'ai pas mis. Mais à plusieurs reprises, il envisage cette possibilité.
Je ne suis pas content de rapport à l'animal et avec la tradition. Je ne vois pas le rapport à l'animal et tradition. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas le rapport à l'animal et la tradition.
Une partie de la tradition, ça consiste par exemple à transmettre les comportements et les apprentissages des animaux. Les grands singes, les chimpanzés, les orangs-outans, les gorilles sont tout à fait capables de faire ça. Il y a d'autres animaux, beaucoup d'inférieurs à ça, qui sont capables de se transmettre. Non, pas uniquement. Non seulement ils sont capables de transmettre, mais ils sont capables d'apprendre eux-mêmes des façons de travailler. Ils découvrent des choses qui sont un petit peu par hasard, mais et ensuite ils doivent le transmettre.
Mais nous, tout ce qu'on a découvert, c'est par hasard aussi. Ben, je veux dire, toutes ces techniques archaïques qu'on a, c'est, Effectivement, on parle de protoculture hein, chez les grands singes parce qu'ils sont capables d'inventer des outils et de les transmettre à leur descendance et qu'ensuite ça devienne un acquis. Voilà. Sinon, si ça devient un acquis, on est dans le phylogénèse, ou alors sinon bah, ça veut dire qu'il faut que. Et c'est pour ça qu'il parle de phylogénèse aussi, Freud dans Loïs et l'autisme, parce que si c'est pas une tradition orale, si c'est vraiment tombé dans l'oubli, du renfoulement en l'occurrence, comment comprendre que ça ait pu traverser 8 siècles? Donc c'est pour ça qu'il revient à.
On peut savoir que le corps a une mémoire. Voilà. Je pense que c'est une façon extrêmement ramassée de répondre à votre question.
Jeunes animaux qui sont coupés de la famille dès la naissance et qui retrouvent les gestes de leurs ancêtres, de leurs géniteurs, ils font exactement pareil. Donc, des animaux qui ont été coupés tout à fait dès leur naissance de la fratrie, de la famille, ils retrouvent, ils retrouvent les mêmes gestes, les oiseaux.
Ils savent voler, oui.
Mais ils savent aussi faire beaucoup d'autres choses. Ils retrouvent des lieux, ils retrouvent.
Les personnels de zoo ont un gros problème parce que les animaux qui sont restés trop longtemps en captivité sont absolument incapables de survivre si jamais on les remet dans leur milieu naturel. C'est-à-dire qu'ils oublient.
Ils ont perdu l'agressivité, mais...
Non. Ils oublient parce qu'ils n'ont plus à faire ce qu'ils faisaient, on le fait à leur place. Et ils oublient. Et cette capacité-là, c'est quand même intriguant. Mais bon, il ne faudrait pas se polariser trop sur le fait que... C'est vrai que les cafards, on est loin, hein, on est très très loin de...
des grands singes.
Mais quand on parle des animaux, on regroupe sous le titre l'animal, justement du cafard au gorille. Il y a justement, par exemple, dans le bouquin prochain, qui fait vraiment la distinction entre les invertébrés, les invertébrés et les vertébrés. Il y a déjà des grandes différences dans le développement. Oui, il y a aussi l'enfant sauvage qui...
Il
n'y en a plus d'enfant sauvage.
Le dernier, c'était Victor de la Vérone.
Oui.
En France, en tout cas, il n'y a plus d'enfants sauvages.
Peut-être que dans d'autres contrées du monde.
Il n'y a plus d'enfants sauvages, il y a des enfants fous. Victor, c'est le dernier enfant sauvage et le premier enfant fou. À partir de là, il y a une psychiatrie d'enfants qui a pu se mettre en place.
Donc pour le dialogue avec Jean-Paul Gaulier.
Voilà.
Ça m'en est marre.